Radio Grand Ciel, guten Tag, bonjour. Am Mikrofon Michel Giroux, à la technique Simon Martin.
Ich bin nicht hier wegen Mama, nicht hier wegen Papa und nicht wegen Onkel Udo bin ich hier. Der Bürgermeister von Berlin, Prinzessin Caroline, sind nicht der Grund, warum ich heute hier erschien. Sieh da der Jauch, den
Willkommen, bienvenue sur Radio Grand Ciel pour une demi-heure avec votre hôte Michel Giroux dans le cadre de notre émission Die Deutschen, les Allemands. Dans l'émission précédente, vous vous en souvenez, j'en suis sûre, auditeurs fidèles, nous avons parlé du message de paix de Fickelmont et donc de la maison Robert Schumann. Vous avez oublié ? Vous voulez en savoir plus ? Donc super, car voyez-vous, nous avons aujourd'hui une invitée, Julie Gratz. Elle est chef de projet du CERS. C'est bien ça, Madame Gratz, n'est-ce pas ?
Donc oui, tout à fait. Donc je suis responsable du service éducatif du Centre européen Robert Schumann et nous travaillons en partenariat avec la maison de Robert Schumann qui est un site Moselle Passion du département de la Moselle et le Centre européen Robert Schumann, le CERS, est une association. Voilà, on travaille ensemble. Et donc moi je gère le service éducatif qui a mis en place une douzaine d'ateliers d'animation pour éduquer les jeunes à l'Europe et à l'Union européenne. On accueille sur le site de la maison Schumann en tout avec le grand public environ 5000 scolaires par an et 5000 personnes par an, voilà, sur le site pour les éduquer à l'Europe et à l'Union européenne.
Est-ce que vous pourriez préciser précisément où vous êtes ?
Alors, nous sommes situés dans le village de Sichazel, le village du père de l'Europe.
Donc Robert Schumann.
Qui est environ à 10 km de Metz. Voilà. Et donc Robert Schumann a habité dans cette maison de 1926 jusqu'à sa mort en 1963. Et c'est la propriété du département de la Moselle que nous exploitons notamment pour faire des visites et faire découvrir au grand public sa maison, son œuvre et sa carrière.
Très bien. Alors, il ne faut pas confondre avec la Fondation Robert Schumann qui est à Paris.
Oui, tout à fait, effectivement. Ce sont deux institutions différentes. Donc, nous, on est basés effectivement en Lorraine.
Et donc, le Centre européen Robert Schumann propose aux jeunes, entre autres, le projet « Nous sommes frères ». Pourriez-vous nous le présenter ?
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, dans le cadre du service éducatif, nous avons un atelier qu'on a développé et on a mis un focus dessus, notamment pour les célébrations de la Première Guerre mondiale. C'est un atelier donc qui s'appelle « Nous sommes frères » et qui est basé sur un message de paix rédigé par 6 soldats allemands en 1916. Ils avaient caché ce message de paix dans une bouteille, certainement une bouteille de schnapps, qu'ils avaient caché dans le plafond de la ferme dans laquelle ils étaient cantonnés avant de partir vers d'autres combats, donc certainement à Verdun. Ils ne savaient pas exactement où ils allaient combattre, mais certainement la bataille de Verdun.
Et donc, votre projet « Nous sommes frères », ça veut dire que vous faites intervenir sur ce projet pas seulement des Français ?
Alors, nous, on propose dans le cadre du service éducatif, tous nos ateliers sont des ateliers bilingues. Effectivement, on reçoit des classes françaises et allemandes et on leur propose notamment cet atelier, un atelier, comme vous pouvez le deviner, qui est relativement émouvant. Et le but, effectivement, c'est d'abord de contextualiser un petit peu le message, de redire aux élèves, des collégiens, voire des lycéens, en quoi, comment le message a été découvert, etc. Et dans une seconde partie de l'atelier, là, on fait répondre aux élèves à la lettre, donc sous forme épistolaires, ils peuvent rédiger eux-mêmes une lettre, voire ils peuvent tout à fait aussi s'exprimer différemment à travers des dessins, une petite scénette de théâtre, etc. C'est vraiment libre cours à leur imagination pour répondre à la lettre au destinataire du message.
Oui, j'en profite pour rappeler que dans l'émission précédente de Die Deutschen, nous avions évoqué le message de paix de Fickelmann et nous avions lu aussi les lettres rédigées par les élèves de ma classe du Collège Sainte-Marie. Mais donc, si Chazelle et Metz ne se trouvent pas très loin de Verdun.
Effectivement, donc Verdun se situe à une soixantaine de kilomètres à peu près du village du Père de l'Europe. Et le message a été généreusement offert au Centre européen Robert Schuman. C'est le propriétaire de la ferme, Fernand Boulanger, qui a découvert le message en faisant des travaux de rénovation dans sa ferme. 65 ans après la découverte, la rédaction du message, il ne savait pas trop quoi en faire. En tout cas, le propriétaire de la ferme ne voulait pas que ce message finisse dans les archives d'un musée ou qu'il ne soit pas montré au public. Il avait proposé à deux institutions, notamment le Centre mondial de la paix et puis un institut bruxellois, d'offrir ce message, mais tous deux ont refusé d'accueillir la lettre, pas nécessairement ont refusé, mais ils ont proposé de le mettre dans leurs archives, et Monsieur Boulanger pensait que la place du message était plutôt de le montrer aux jeunes, et donc il s'est tourné vers le Centre européen Robert Schuman et la maison de Robert Schuman pour le porter à la découverte des jeunes et des générations futures, comme c'est mentionné dans le message à la fin. Les soldats rédigent vraiment ce message pour les générations futures. Et c'est de là qu'on a créé notre atelier « Nous sommes frères ».
Mais ce message a été authentifié, je suppose.
Ce message a été effectivement authentifié et offert donc généreusement, comme je l'avais dit précédemment, au Centre européen Robert Schuman. Donc il a été authentifié et remis lors d'une célébration officielle très émouvante sur le site de la ferme de Fickelmann, qui a été remis donc par Monsieur Boulanger au Centre européen Robert Schuman, lors d'une célébration officielle.
Est-ce que vous savez comment on l'a authentifié ?
J'ai un petit trou en tout cas en ce qui concerne l'authentification exacte du message, mais je sais qu'il a été authentifié. C'est un message parfaitement authentique. Je peux vous le confirmer, ça c'est certain. Ce que je peux vous dire en tout cas en ce qui concerne la traduction, c'était que les lignes étaient écrites en Spitzschrift. C'était un allemand qui est vraiment différent de celui d'aujourd'hui.
Oui, c'est type de caractère. On apprenait aux gens à écrire comme ça à l'époque.
Voilà, et il était difficilement lisible et traduisible, mais il a été déchiffré et traduit et authentifié et traduit donc en français puisqu'il était originellement en allemand.
D'accord. Voilà.
Et on a essayé de retrouver notamment les descendants du message.
Oui.
Ils ont essayé notamment les descendants qui ont retrouvé des traces de leurs ancêtres, des soldats, et qui se sont très vite prêtés au jeu de l'enquête en apportant des documents et des précisions importantes sur leur séjour à Fickelmann et les conditions dans lesquelles la lettre a pu être écrite. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on a pu authentifier le message, grâce notamment aux descendants.
Est-ce que vous savez si parmi ces soldats qui ont écrit le message, si certains sont morts à Verdun ou s'ils ont vraiment survécu?
Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. On ne sait pas exactement ce qu'il est advenu des six soldats allemands. Ce qu'on sait, c'est que cinq auraient survécu à la Première Guerre mondiale. On a juste un point d'interrogation sur l'un des soldats. On ne sait pas ce qu'il est advenu. On n'a pas de traces. On n'a pas retrouvé de descendants par rapport à un des soldats. Mais tous les autres, on a pu retrouver une trace de leur descendance. Et ils nous ont tous affirmé effectivement que leurs ancêtres n'étaient pas morts sur les champs de bataille durant la Première Guerre.
Mais on n'a pas retrouvé quelqu'un qui vivait encore.
Oui, effectivement, parce que le territoire se trouvait en Pologne et il a changé de nom De la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, l'authentification du message, le village a changé de nom et on n'a pas retrouvé exactement de descendants par rapport à ce soldat-là.
Mais est-ce qu'on a pu rencontrer un de ces soldats qui, dans les années 90, vivait peut-être encore et qui se souvenait avoir écrit ce message?
On n'a pas retrouvé de les soldats, non. On a retrouvé principalement les descendants des
D'accord.
soldats qui étaient très émus de retrouver cette lettre et qu'ils ne savaient même pas que leurs ancêtres avaient pu rédiger un tel message et l'avoir caché dans une bouteille durant la Première Guerre mondiale. Mais non, effectivement, on n'a pas retrouvé les soldats allemands qui ont rédigé ce message, simplement leurs ancêtres.
Est-ce
leurs
que...
descendants.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'autres messages abandonnés par des soldats lors
Alors,
de cette guerre?
effectivement,
Est-ce que c'est
oui.
un cas unique ou bien est-ce que ça s'est reproduit?
Alors, effectivement, il y a énormément de messages épistolaires ou autres qui ont été rédigés durant la Première Guerre mondiale et durant même d'autres guerres, qui ont été cachés ou autres. D'ailleurs, au mémorial de Verdun, on s'aperçoit de la richesse épistolaires, des messages rédigés par des soldats ou de simples citoyens. Tout est exposé au mémorial de Verdun, mais ce message de Fickelmann est particulièrement émouvant du fait de son ton aussi antimilitariste et du contenu du message.
D'accord.
Vraiment, si on le lit, on s'aperçoit que les soldats ne veulent que la paix.
Et ils veulent l'Europe.
Exactement. Ils finissent effectivement sur des notes très positives en invoquant la paix et en invoquant leur horreur de la guerre et le fait de vouloir construire cette Europe, ce qui est extrêmement visionnaire, 34 ans avant le célèbre discours dans lequel Robert Schuman appelait à mettre en commun la production franco-allemande de charbon et d'acier.
D'accord. Alors, le message a donc été confié au Centre européen Robert Schuman. Mais alors, on parle de Robert Schuman depuis un bon moment, mais qui est-il?
Alors, Robert Schuman, donc, il est considéré comme l'un des pères de l'Europe. Donc, il était ministre des Affaires étrangères et il est devenu célèbre, ou en tout cas la portée de son message fut historique grâce au célèbre discours du 9 mai 50 qu'il a prononcé dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay à Paris, en déclarant vouloir mettre en commun, sous une haute autorité commune, donc la production de charbon et d'acier, faisant ainsi naître une sorte de graine d'Europe. Donc tous les pays qui souhaitaient s'associer à ce projet pouvaient y contribuer. Et donc c'est ce qui a donné naissance à cette petite graine d'Europe initiée notamment par Robert Schuman. Voilà, il fallait quand même un sacré courage politique pour pouvoir annoncer ça 5 ans après la Seconde Guerre mondiale.
Alors, quand on visite la maison Robert Schuman dans son bureau, le guide nous explique qu'en fait, ce qui a déclenché ce processus chez Robert Schuman, c'est la lecture d'un rapport.
Alors effectivement, l'idée n'émane pas exactement de Robert Schuman en lui-même. C'est Jean Monnet qui a eu l'idée de ce que deviendra plus tard la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais Jean Monnet n'ayant pas de pouvoir politique, il a confié son idée à Robert Schuman, qui lui était ministre des Affaires étrangères à l'époque et qui a endossé la responsabilité de ce projet et qui l'a fait passer, je dirais, quasiment dans le plus grand secret pour en faire le discours le 9 mai 50.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur Robert Schuman? Il est né où?
Alors, Robert Schuman, il est né dans un village, donc à Clauden, au Luxembourg. Sa maman était luxembourgeoise, Eugénie Duren, et son papa, Jean-Pierre Schuman, était lorrain. Et donc, la nationalité de Robert Schuman, quand il est né allemand. Et ensuite, par rapport aux guerres et autres, il est redevenu français. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à sa nationalité. Robert Schuman, donc il a passé une grande partie de sa vie, il était très très attaché au territoire lorrain. De 1926 à 1963, il a passé beaucoup de temps en Lorraine, à Seychazelles, notamment dans sa maison. C'est là qu'il se ressourçait. C'était un homme très pieux, catholique pratiquant. Il allait souvent à l'église notamment. Et quand on visite la maison de Robert Schuman, on s'aperçoit aussi du cadre très simple. Il n'y a pas du tout de dorure, ce n'est en rien ostentatoire. Donc on peut vraiment s'apercevoir du caractère, je dirais, un peu authentique de l'homme qui dénote un petit peu avec voilà, le cadre qu'on pourrait prêter aux hommes politiques, un peu fastueux, etc.
Et donc, le métier qu'il avait, qu'il a exercé, c'était avocat, je crois.
Voilà, effectivement. Donc, au départ, il se destinait à être avocat. Il a fait des études dans ce sens. Il a ouvert son cabinet d'avocat à Metz en 1912. Il faut savoir que c'était un élève extrêmement brillant. Il maîtrisait plusieurs langues, notamment donc le français, le luxembourgeois, l'allemand, l'anglais aussi, et une maîtrise aussi quasi parfaite du grec et du latin. Mmh. Il a étudié dans plusieurs universités, principalement allemandes, notamment à Bonn, aussi à Munich, à Strasbourg, qui était allemande à l'époque. Et il a donc reçu son diplôme pour être avocat, exercer cette profession avec les plus grands honneurs. Il a ouvert son cabinet d'avocat en 1912 et était aussi impliqué dans beaucoup d'associations, de mouvements, notamment catholiques, tels que Caritas, par exemple. Donc il s'est vraiment illustré auprès de la population mosellane et lorraine sur une plus grande échelle. Et avant d'être considéré comme le père de l'Europe, il était surtout considéré comme le père de l'Alsace-Moselle. Voilà.
nous avez présenté donc vos projets, ceux du centre, mais quel objectif est-ce que vous poursuivez à travers tous ces projets ?
Alors, l'objectif, c'est principalement d'éduquer donc le grand public et notamment à travers le service éducatif, les scolaires à l'Europe et l'Union européenne, ce qui n'est pas forcément chose aisée. On fait souvent des interventions auprès du public et l'une des questions qui revient fréquemment, c'est quelle est la différence entre l'Europe et l'Union européenne. Donc là, des fois, on n'a pas forcément la réponse qu'on peut attendre. Donc effectivement, replacer ça dans un contexte, expliquer toujours. Voilà, autant sur le personnage de Robert Schuman, son message est toujours d'actualité, et autant sur l'actualité européenne, expliquer notamment à une échelle plus récente, le Brexit par exemple, ou la montée des populismes, des extrémismes en Europe, voilà, toujours répondre aux questions des citoyens et notamment des scolaires qui, eux, sont les futurs citoyens de demain.
Oui, vous faites des conférences, mais pas uniquement pour les scolaires.
Non, on fait ça vraiment pour le grand public. Notre champ d'action vraiment est très large et varié. Et c'est principalement la société civile, donc vraiment toutes les couches de la société. Donc ça va du primaire jusque de 7 à 77 ans, voire plus.
Et c'est d'ailleurs dans le cadre d'un de ces projets que nous nous sommes rencontrés à Cichazel récemment.
Absolument. Donc nous nous sommes rencontrés dans le cadre du projet CityPart, qui est un projet européen financé par le programme Europe pour les citoyens, qui est porté par la Maison d'Europe des Yvelines. Nous sommes 5 partenaires dans ce projet, donc 8 partenaires issus de 5 pays européens différents, donc de France, d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche et de Croatie. Et nous nous sommes rencontrés en rencontre multilatérale sur trois thématiques. Nous avons exploré la thématique de la solidarité, la thématique de la tolérance et la thématique de la paix. Et nous nous sommes donc rencontrés en mars dernier, fin février, mars dernier, sur la thématique de la paix, effectivement, où j'étais intervenue dans les établissements scolaires en amont pour que les élèves, les collégiens de 3e, répondent à la lettre de Fickelmont et le jour même, le 28 février, restituent leur production devant les partenaires européens présents pour le projet CityPart.
Merci. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura apporté des compléments d'informations sur le fameux message de Fickelmont, sur Robert Schuman, etc. Je suis très heureuse d'avoir interviewé Julie Gratz. Alors, pendant cette émission, vous avez écouté des musiques. D'abord, le préambule du Carnaval, opus 9 de Schumann, interprété par Nelson Frère. Puis, vous avez écouté l'Andante Allegro de la Bagatelle, opus 11, numéro 6, par Michael Pletneff, morceau de Beethoven. Alors, pourquoi ces morceaux ? Parce que, quand on visite la maison Robert Schumann, dans son bureau, il y a un piano à queue, des partitions, des disques, et Robert Schuman jouait du piano. Et il avait gardé le goût de ses pièces simples et belles, comme celles de Clementi, Mozart, Beethoven ou Schumann que nous avons entendu dans cette émission. Je vous souhaite une bonne fin du mois de mars, début du mois d'avril. Nous allons accueillir les Allemands très bientôt, nous allons être très pris. Et puis à bientôt pour la prochaine émission avec plein de reportages sur notre échange. Tschüss!
Ich bin nicht hier wegen Mama, nicht hier wegen Papa und nicht wegen Onkel Udo bin ich hier. Der Bürgermeister von Berlin, Prinzessin Caroline, sind nicht der Grund, warum ich heute hier erschien. Sieh da, der Jauch, den kenn ich auch. Und Jupp und Schmidt, Brett Pitt und Karl und Armin Müller-Stahl. Alle wollen mich begrüßen, kommen auf mich zu. Heut liegt mir die Welt zu Füßen, doch da stehst du. Ich bin nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier. Nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier. Der Präsident, der mich schon länger kennt, auch wegen Grass und Lars von Trier bin ich nicht hier. Zu Direktor mit Knut, die Queen mit Hut. Wie ich sehe, steht der Papst mit dem Dalai Lama am Buffet. Alle Damen wollen tanzen, die Herren prosten mir zu. Das ist schon sehr schön im Ganzen, doch da stehst du. Ich bin nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier. Nur wegen dir hier. Ich hab für Mitternacht ein Feuerwerk bestellt, dann sind die draußen, wir sind drin. Denn ich weiß genau, was dir und mir gefällt, kriegen wir alleine hin. Ich bin nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier, nur wegen dir hier.